À voix nue. Cette semaine, Virginie Despentes et Élodie de Glaire rencontrent Jean-Claude Fasquel. Ce soir, juste après la guerre, malgré tout.
Jean-Claude Fasquel, vous êtes né le 29 novembre 1930. Vous avez été éditeur pendant 47 ans, dont 20 à la direction des éditions Grasset et Fasquel. Vous êtes fils d'éditeur et petit-fils d'éditeur. Votre grand-père a notamment publié Maupassant, Flaubert, Zola ou Alphonse Daudet, et votre père a travaillé entre autres avec Marcel Pagnol ou Edmond Rostand. Enfant ou adolescent, quelle idée vous faisiez-vous du travail de votre père ?
Ben, vous savez, comme tous les... Comme la plupart des fils, j'imagine, on n'a absolument aucune envie de travailler avec son père. D'autant plus que j'avais l'exemple effrayant de mon grand-père, qui est resté aux commandes des éditions jusqu'à 80 quelque chose d'années. Et voilà, comme lui était un homme du 19e, c'était quand même l'éditeur de Zola, des Naturalistes, de Huysmans, d'Alphonse Daudet, de Flaubert même. Évidemment, quand il y a eu ce grand bouleversement littéraire dont des gens comme Proust étaient l'exemple, si vous voulez, il n'était pas du tout armé intellectuellement si, mais je veux dire, au point de vue son goût, son oreille littéraire, n'était pas du tout armé pour saisir tout ça. Et du coup, mon père, qui aurait été un bon éditeur, je crois, ce qu'il a fait, c'était bien, n'a pas pu faire ce qu'il voulait du tout. Et ce qui a devenu deux choses, premièrement, la maison d'édition a se cassé la figure, et deuxièmement, mon père a voulu faire autre chose. Il s'est mis à faire du cinéma, des documentaires, etc. Et c'est pour ça que il ne donnait pas suffisamment de temps à la maison, et donc il a préféré abandonner. C'est pour ça que moi, on m'a collé là, familialement, à 23 ans, et j'ai accepté de le faire dans une inconscience totale. Je ne me rendais absolument pas compte de ce que je faisais. Et pourtant, j'avais fait des stages. C'est déjà ce qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. J'avais fait des stages, on m'avait envoyé faire des stages dans des imprimeries, dans des ateliers de photogravure, des stages de représentants, etc. Et finalement, ça m'a servi énormément. Voilà.
Quelles études avez-vous suivies et vos projets d'adolescent ?
Vous savez, mon adolescence, c'était la guerre. Alors, les projets, c'était plutôt de voir zigouiller un maximum de boches. Par ça, on pensait pas à grand-chose. Bon, alors après, j'ai fait des études, j'ai fait un peu de Sciences Po. Je peux rester jusqu'au bout. J'ai fait une licence de droit, j'ai fait une licence de lettres. Et en même temps, mon service militaire. Et puis voilà, puis c'est à 23 ans qu'on m'a pratiquement installé de force sur ce fauteuil de direction des éditions Fasquel.
Et donc c'est là que vous avez commencé les éditions Libelle, la collection Libelle.
La collection Libelle, j'ai commencé en 54.
En 54.
55.
Et qu'est-ce que vous aviez envie de publier ? Qu'est-ce que c'était pour vous la littérature qu'il fallait publier à ce moment-là ? Qu'est-ce qui était important ? Avec quels auteurs vous avez travaillé pour la collection Libelle ? Et qu'est-ce qui vous semblait important à ce moment-là à défendre ?
Eh bien, on était donc juste après la guerre, malgré tout. Et on peut dire vraiment que la littérature a été hold-upée, confisquée par des gens qui peut-être des petites choses à se faire pardonner après la guerre. Enfin, en tout cas, tout ce qui était la belle écriture était censé être de droite, quasiment collabo, au profit du sens. Enfin, c'était toutes les choses de Sartre et Mais seulement tout ça, ça aurait été très bien si ça n'avait pas été accompagné d'un totalitarisme absolu. Alors vous avez, c'est la bande de Sartre des temps modernes, etc. Vous aviez les marxistes d'Aragon, etc. Vous aviez une ou deux autres malades du genre, qui étaient toutes de la NRF d'ailleurs. Gaston Gallimard a été absolument génial. Mais c'était difficile pour des gens qui... C'est ce qui a donné lieu aux hussards, si vous voulez. Si vous voulez, on appelle ça comme ça, mais Bernard Franck qui a eu cette trouvaille. C'est des gens qui ne voulaient pas entrer dans ce moule-là, mais qui n'étaient pas forcément de droite ni de rien du tout. Simplement, ils aimaient écrire à leur guise. Voilà, c'était ça, c'était ces gens-là que j'essayais de récupérer. D'ailleurs, pour la bonne raison que les autres, ils étaient inatteignables.
C'était qui, les hussards?
Les hussards, c'était... D'après Bernard Franck, c'était lui-même. Antoine Blondin, Michel Déon, éventuellement Jacques Laurent. Voilà. Alors, les gens de Sartre, si vous voulez, ont tout de suite essayé de les zigouiller en disant qu'ils étaient des gens d'extrême droite. Ce qui était totalement faux. Peut-être Laurent, à cause de la guerre d'Algérie, oui. Mais ni Franck, ni Blondin, ni...
Gallimard, pourtant, à un moment, interdit à ses auteurs de publier chez Libelle. Pourquoi ?
Parce qu'il ne voulait pas que ses auteurs aillent chez un concurrent, même pour un livre. C'est ce côté un peu possessif des éditeurs. Mais à l'époque, ce qui était plus compliqué pour une maison comme Fasquelle, ou comme Grasset d'ailleurs, pareil, c'est que Hachette, qui était notre actionnaire principal, était le distributeur de Gallimard, du fonds Gallimard, qui était c'était un très gros chiffre d'affaires pour eux. Donc, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher des maisons comme nous de gêner ou d'être même un peu désagréables à la NRF et à Gaston.
Et vous, cette expérience de Libelle, par exemple, ça vous a... Vous avez été en confiance et bien avec les auteurs tout de suite, ou il a fallu attendre... Ça vous a plu tout de suite d'être éditeur, ou pas tout de suite? Tout de suite. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans le contact avec les auteurs en tant qu'éditeur?
Je m'étais pas aperçu que j'aimais lire avant. Mais j'ai adoré ça. Et découvrir un texte qui... manuscrit, tapé à machine, éventuellement à l'époque... Pas forcément. C'est miraculeux. C'est comme... c'est des joies qu'on a que... Je sais pas, moi... C'est à la pêche, peut-être. Et puis après, alors, c'est la compétition. C'est la bagarre. C'est le sport. Il s'agit de les faire connaître, ces livres qu'on a aimés.
Et comment c'était, justement, à ce moment-là, pour faire connaître? Comment s'y prenait pour faire connaître un livre? Ça devait être très différent d'aujourd'hui. Comment ça se passait? Comment c'était?
C'était peut-être différent d'aujourd'hui. En tout cas, c'était pas très différent de quand j'ai quitté la maison. C'est-à-dire, il fallait... c'est toujours le même problème. Une production énorme et des gens, les professionnels qui sont chargés de faire connaître... Et ces livres, de les sélectionner, d'en parler, les critiquer, etc. Ils ont les journées en 24 heures et ils sont incapables de lire. Vous qui êtes à l'Académie Goncourt aujourd'hui, vous devez savoir ce que ça peut représenter de recevoir toute cette flopée de livres à la rentrée. C'est pas...
Et ils sont publiés autant qu'aujourd'hui, dans les années 50?
Un petit peu moins. Oui, un peu moins. Mais le problème n'est pas la quantité qui est publiée, c'est la quantité qu'on peut lire. Et ça n'a pas changé.
Non.
Ça n'a pas changé. Alors, qu'il y ait un déchet de 5000 ouvrages, ou de 3000 ouvrages, ou de 2000 ouvrages, ça ne change rien. Ce qui est pris en compte, si vous voulez, par... Voilà. Et c'est là qu'il faut arriver à placer ces livres. C'est le premier degré, le premier stade, de les mettre, tant pour les prix qu'ils soient sur les listes. Pour ça, il faut que la presse en ait parlé. Bon, alors, les listes de prix, vous les faites début septembre. Les gens rentrent de vacances le 30 août. Vous voyez le travail. Et c'est là où il faut très, très en amont se informer, si vous voulez. Faire lire des épreuves, faire lire des, même quelquefois le manuscrit. Déjeuner, parler de ce livre qui va être... Vous allez voir, ça va être formidable. Mais je crois que c'est toujours comme ça que ça se passe.
Si je reviens un peu sur les publications aux éditions Libelle, les premiers tirages ou les premières ventes...
C'est pas des éditions.
Collection Libelle. On est autour de 2000, 3000 exemplaires en vente de livres.
On est autour de... Oui, 3000 exemplaires, pas un petit peu plus, certains. Et les Cocus du vieillard moderne de Salvador Dali. On fait beaucoup plus, ça se vend toujours encore, d'ailleurs. Et le Roger Vaillant aussi, qui a été repris à l'intérieur d'un ensemble de textes de non-fiction de Vaillant, sous le titre « Le regard froid ». Mais c'était des livres merveilleux, parce qu'en principe, ils étaient écrits pratiquement d'un seul jet. Je retrouvais une lettre de Nourricier l'autre jour, qui me rappelait ça, cet épisode. Il me dit « Il y a un livre que j'ai écrit en un week-end ».
Parce que c'était spontanément comme ça, ou c'était une règle du jeu que vous aviez inventée tous ensemble, ou c'était...
Non, c'était spontanément
c'était
comme ça.
C'était comme ça, d'accord.
La règle du jeu était qu'ils écrivent quelque chose qui soit un petit peu à côté de leur œuvre majeure et de quelque chose qui soit une chose de protestation, mais plus intelligente que les gilets jaunes.
Auxquels vous ne touchiez pas à ces textes?
D'abord, j'avais c'était François Michel qui était directeur de la collection, qui était un... J'étais obligé de me remettre au latin pour parler avec lui, pratiquement. C'était son travail, ça. Et puis, il m'a appris beaucoup de choses.
Qu'est-ce qu'il vous a appris, par exemple?
Il m'a appris... Je n'aurais pas dit, il m'a appris le beau. Voilà. Et pas avoir honte de privilégier le beau.
Le beau au sens de bien écrire ou le beau
de bien
au sens
écrire,
de...
Le belles descriptions, des belles descriptions, le plaisir, si vous voulez. Le plaisir, oui. Et il y avait un autre bonhomme à l'époque qui m'a appris énormément. Alors là, pas de ce point de vue-là, mais du point de vue professionnel, c'est Henri-Philippe Aquier.
Que vous retrouviez au Flore?
On se retrouvait au Flore au moins une fois par semaine. Et on bavardait, il me racontait des trucs, etc. Sur le métier, sur... Henri-Philippe Aquier était le père du créateur de Salut les copains. Et c'était le plus grand patron du commerce chez Hachette.
Et il était un peu plus âgé que vous?
Ah oui, il aurait pu être mon père. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il vous a appris alors? Qu'est-ce qu'il vous transmettait de si précieux?
Mais des choses, tout ce que je savais rien. Je savais rien, je n'avais pas d'expérience. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en place? Qu'est-ce que c'est que... Heureusement, j'avais des connaissances de fabrication. Et j'avais tourné pendant 6 mois... avec un représentant en province. Donc j'avais... Six mois, on n'apprend pas grand-chose, mais tout de même.
Ouais.
On sait ce que c'est qu'un libraire, on sait ce que c'est que ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas. Il faut leur faire confiance, d'abord, pour qu'ils vous fassent confiance, eux. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... qu'on n'apprend pas, même, j'imagine, dans les écoles d'édition. Je crois que ça existe maintenant. C'est ce genre de choses qu'on apprend comme ça sur le terrain ou par l'expérience d'un autre homme. Enfin, d'un autre homme, d'une autre personne.
Et à ce moment-là, vous vous préoccupiez par exemple des attentes du public, des lecteurs, ou c'était quelque chose qui n'intervenait pas ? Dans les choix de publication que vous faisiez, vous pensiez des fois, je pense que les lecteurs ont envie de lire ça, ou c'était quelque chose qui n'intervenait pas ?
C'est fondamental. C'est fondamental. Si on a envie de transmettre au lecteur le goût de lire ce livre-là, ou bien on ne publie pas. Enfin, en principe.
Et comment est-ce que vous essayez de comprendre ce que les lecteurs attendaient ? Comment est-ce que vous aviez, en discutant avec les gens, en discutant avec les libraires...
J'essayais plutôt de lui faire comprendre que ce livre était très bien.
Quel est le livre, par exemple, qui a conquis un public dont vous vous souvenez, où ça a été vraiment la validation du public d'une publication que vous avez faite ? Est-ce qu'il y a un titre qui vous revient en mémoire sur un succès public, peut-être un des premiers d'ailleurs ?
Non. Je n'ai pas de souvenir particulier d'un livre plus qu'un autre.
Et d'un auteur plus qu'un autre ? Il y a des auteurs que vous avez rencontrés dans cette collection avec qui vous êtes resté ami longtemps ou pas spécialement ?
Tous, c'était mon fonds de commerce, si je puis dire, quand je suis arrivé chez Grasset.
Et vous les aviez rencontrés comment ? Comment elle s'est sélectionnée, cette équipe ? Comment elle s'est constituée, Franck, Nourricier, Vaillant ?
Beaucoup grâce à François Michel, qui avait publié une revue littéraire, d'un côté, et puis d'un autre côté, avec mon vieux copain qui était Claude Perdriel, on avait repris une revue qui s'appelait Les Cahiers des Saisons. Et j'ai connu beaucoup d'auteurs comme ça par Les Cahiers des Saisons, Jacques Brenner, Mathieu Gallet, beaucoup d'autres.
Et donc comment se fait à la fin de la collection Libelle le rapprochement avec les éditions Grasset ?
Après, pendant Libelle, avec l'idée de trouver une autonomie financière pour Fasquel, on s'est lancé dans un énorme projet qui est une encyclopédie de la musique. C'est un bel ouvrage.
Stravinsky ?
Dirigé par Stravinsky. Et cette originalité, c'est que les auteurs des articles sur un musicien français, par exemple, n'étaient pas forcément français. Par exemple, je prends cet exemple parce que le spécialiste de Berlioz était australien. Mais du coup, on avait le meilleur texte, le plus pointu qu'on pouvait avoir à l'époque, et qui ringardisait toutes les grandes encyclopédies de la musique allemande qui existaient auparavant. Mais on a eu des problèmes commerciaux, et puis voilà, ça coûtait très cher. Et au lieu de renflouer nos finances, ça a achevé de les mettre à bas. Et à ce moment-là, le propriétaire de nos locaux rue de Grenelle a voulu récupérer ses locaux pour construire un immeuble et a proposé une somme très coquette, très importante pour notre éviction. Alors en plus, c'était un vieil hôtel particulier, qui était très beau, mais qui était totalement délabré. Je veux dire, les planchers du premier étage tenaient sur des piles de livres, pas sur des poutres. C'était pas commode. D'une part. D'autre part, alors, chez Grasset, qui venait d'être racheté entièrement par Hachette, il y avait besoin de travaux considérables. Parce que Grasset avait été laissé un peu dans l'abandon, mais enfin, c'était pas terrible après la guerre. Les problèmes personnels de Bernard Grasset ont fait que rien n'avait été vraiment entretenu. Donc l'idée de Philippe Aki a été de mettre les deux maisons dans le même immeuble. Mais en gardant deux maisons, avec éventuellement des services communs pour la fabrication, la comptabilité, choses comme ça. Alors, c'est ça qui s'est passé. Et la seule chose qui à laquelle personne n'avait pensé, moi le premier, c'est que j'allais m'entendre très bien avec les gens qui étaient rue des Saint-Père, et que c'était beaucoup plus excitant et amusant de se... Parce que là, c'était quand même une maison moderne, beaucoup par rapport à la nôtre. On était encore en plein 19e chez Grasset, chez Fasquelle, je veux dire.
À cette époque, qui est chez Grasset, cette équipe que vous rencontrez?
Bon, j'avais rencontré Bernard Grasset au moment de la création de Libelle, parce que François Michel avait signé chez lui pour la collection. Mais François Michel était homosexuel, et je pense que à 24 ans, je devais lui sembler plus comestible que Bernard Grasset, qui avait fondé déjà sa maison en 1907. Donc, il voulait préférer signer chez Fasquelle. Voilà. Et alors, j'étais allé voir Bernard Grasset pour lui demander d'avoir la gentillesse, la courtoisie de renoncer à ce contrat. Il n'y avait pas de bouquin publié, il n'y avait pas de... C'était... Et il m'a dit, oui, je le fais d'autant plus volontiers que ce type-là, par exemple Saint-Michel, je ne pouvais pas le supporter parce qu'il remontait son pantalon, il avait des énormes mollets.
Et vous lisiez les auteurs qu'il avait, enfin les Morand, Mauroy, Mauriac, Monterland, c'était des lectures que vous aviez à cette époque ou que vous avez
que j'ai eu, oui. Mais ce n'était pas des lecteurs de job que j'ai eu en tant que jeune homme.
D'accord.
C'est des lecteurs que j'ai eu professionnellement.
Pourquoi Libelle s'arrête?
Eh ben, lire et belle s'arrête, c'est pas compliqué, c'est parce que sur les 4 livres qu'on avait devant nous, bon, ça c'est la raison officielle. Il y en avait 3 qui étaient de chez Gallimard, les auteurs, et qui nous ont bloqués brutalement. L'autre raison, c'est que je pense qu'on avait fait à peu près le tour de nos copains, des gens qu'on avait envie de publier là-dedans, oui. Seulement, il y avait pas mal de gens qui ont voulu publier dans Libelle, mais qui n'avaient pas la... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas la carrure, mais qui n'avaient pas le profil, quoi. Enfin, nous, en tout cas, on n'avait pas envie de leur demander leur avis.
Sur quoi que ce soit.
Je crois que c'est ça, la vérité.
Et à ce moment-là, en tant que jeune éditeur, en dehors des auteurs avec qui vous travailliez directement, qui étaient les auteurs qui vous impressionnaient, français ou étrangers, les auteurs qui vous semblaient importants à ce moment-là, qui vous touchaient, vous, directement, à ce moment-là?
Céline.
Vous avez rencontré Céline, non? Plus tard?
Pas plus tard, à ce moment-là. À ce moment-là, et... J'allais le voir tous les jeudis à passer l'après-midi avec lui. C'était beaucoup tous les jeudis, pendant un an
beaucoup,
ou deux.
Hein.
Et j'ai retrouvé tout l'autre jour, en essayant de me rafraîchir un peu la mémoire pour ne pas avoir un blanc total aujourd'hui avec vous, j'ai trouvé un compte-rendu de réunion d'un conseil d'administration avec Hachette, avec les gens d'Hachette et moi, où il est écrit que je leur donnais à lire une lettre de Céline voulant publier chez nous d'un château l'autre et certifiant qu'il ne voulait plus publier un livre chez Gallimard. Et cette lettre, je savais qu'elle existait, je ne l'ai jamais retrouvée. Et là, j'en ai retrouvé la trace.
Et finalement, pourquoi est-ce qu'il a continué à publier chez Gallimard?
Parce que même Philippe Aki a dit, mais écoute, tu ne peux pas, c'est la folie, tu ne peux pas faire ça à Gallimard, etc.
Et de quoi vous parliez tous les jeudis avec Céline pendant un an et demi, alors?
Oh ben, il racontait des trucs. il me soignait.
De quoi?
Du foie, m'avait dit. Et du nom, on parlait, c'était lui qui parlait, surtout.
Il était drôle? Quel souvenir vous avez?
Très drôle, très charmant. Très, très charmant. Puis il montrait son travail, parce que lui, c'était visible, son travail. Parce qu'il avait une corde à linge au-dessus de son bureau, où il accrochait les chapitres avec une pince à linge. Et il me montrait les choses, cette inouïe, cette type, il relisait ses textes. On a l'impression que c'est jeté, que c'est éclabousse, que ça vient de... En fait, chaque substantif, il avait écrit par-dessus, au-dessus, entre les deux lignes, un ou deux autres qu'on aurait pu mettre à la place. Sur chacun.
Sur chacun.
Comme une... C'est un travail d'écriture absolument extraordinaire. Bon, j'aimais Céline, j'aimais Vaillant. Vaillant, je crois que j'avais réussi à le rapatrier chez Grasset à peu près complètement. Puis il a attrapé ce cancer, il est mort. Mais c'était intéressant des types comme Vaillant parce que... Enfin, c'était après 56, donc. L'éloge du cardinal de Bernice, son libel. Et c'était... au fond, c'était sa rupture avec le parti communiste. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui ont vécu ce problème de rompre sans rompre, de se rompre sans faire de dégâts, parce que et cet éloge du cardinal de Bernice a été un signe pour qui est resté d'autres. Très important dans la parmi les écrivains. Les écrivains communistes en particulier.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Despentes et Élodie Deglaire avec Jean-Claude Fasquelle. À voix nue. Réalisation Julie Béressy, prise de son Clémence Bonfils, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.